Vous doutez bien, je ne suis pas musicien. Et en plus, quand on est religieux, on n'a pas l'usage de la musique qu'on voudrait. Enfin, vous voyez, on n'écoute pas des... Enfin, voilà, quand on est dans une vie laïque, on peut écouter de la musique à peu près quand on veut. Quand on est jeune, on n'a pas de Walkman, enfin, ou de... Vous voyez, on a des petits machins pendant l'office. On ne peut pas chanter en playback l'office. Puis on chante des trucs, quelle que soit l'humeur dans laquelle on est passé par des bons chanteurs, on chante avec ceux qui sont là, donc la sélection de la vie religieuse ne commence pas par virer tous les gens qui sont nuls en musique ou qui ont l'oreille fausse. Voilà, donc ma pratique de la musique, et en même temps, tous les jours j'essaie de chanter depuis 35 ans, donc le résultat n'est pas très aléatoire, mais la tentative est intéressante. Voilà, donc ça veut dire que mon expérience de la musique, elle est très limitée. Et puis la musique, c'est n'a comme philosophie le démusica de Saint-Augustin, dont je ne vais pas vous faire l'exposé ici. Et puis, c'est à peu près tout, quoi. Pas beaucoup de choses sur la philosophie de la musique. Il y a Hegel, hein, qui a fait un peu de la philosophie sur tous les arts, mais il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, on va commencer par ça. Avant de savoir si elle a encore un avenir, la musique, parce que chaque fois qu'on a dit qu'on travaillerait sur un art, c'est au fond de le comprendre aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est... On l'a fait sur l'architecture, et vous allez voir que c'est aussi très impressionnant sur la musique. Alors, d'abord, de quoi parle-t-on ? D'un art ? Qu'est-ce que c'est un art ? C'est une activité de transformation symbolique. C'est-à-dire, c'est une activité dans laquelle un individu ou plusieurs individus traduisent symboliquement, à travers le son, essentiellement, oui, à travers le son, ce qui porte symboliquement, ça veut dire que les sons sont émis en vue de signifier quelque chose et que la signification de ces sons n'est pas nécessairement selon une convention purement pratique, comme peut l'être en partie le langage, comme l'est, pour faire court, le langage mathématique, par exemple. Il y a peu d'émotions dans le langage mathématique. Il y a une symbolique, mais elle n'est pas... On peut méditer des heures sur un chiffre mathématique, mais... font quand même un certain capacité de degré d'abstraction. C'est plus facile, en tout cas, de méditer sur un morceau de Debussy ou sur un tableau de Chagall. Donc, elle transforme pas, elle n'est pas simplement donc, la transformation du son en un son signifiant quelque chose pour des humains, mais elle est aussi quelque chose dans lequel celui qui joue, puisque la musique, ça se joue, dans lequel l'artiste lui-même est transformé. Donc, l'art, c'est d'abord une œuvre. Et on va voir qu'elle est très particulière, l'œuvre musicale, puisqu'elle disparaît au fur et à mesure qu'elle est fabriquée. Donc, l'art, c'est d'abord une œuvre, mais l'art, c'est aussi un artiste. Et l'artiste qui transforme ce son en un son signifiant est lui-même transformé par ce qu'il fait. D'abord parce que son rapport au monde change, en manipulant les sons, la relation qu'il a au son évolue, en essayant d'exprimer quelque chose de personnel à travers le son, il évolue par rapport à lui-même. Et un musicien n'évolue pas dans la relation à lui-même comme évolue un peintre, comme évolue un architecte, comme évolue un grand cuisinier. Parce que, on va le voir, l'art du son n'affecte pas la personne de l'artiste de la même manière que... l'art du goût, mais aussi l'art touche et transforme celui qui en bénéficie. L'artiste en bénéficie. C'est très étonnant d'ailleurs. Le musicien entend ce qu'il chante, alors que le comédien ne voit pas ce qu'il joue. Alors, on va dire, si le cinéaste, le comédien de cinéma, sauf que le comédien au cinéma ne voit jamais ce qu'il joue parce que ce qu'il voit sur un écran n'est pas ce qu'il a joué, parce que c'est la transformation de ce qu'il a joué en deux dimensions alors qu'il l'a joué en trois. Donc, on a écrasé le comédien sur le mur, d'accord, ça s'appelle un film, et donc, le rapport ce que je veux dire, c'est que le rapport du comédien au film n'a, d'une certaine manière, rien à voir avec le rapport du comédien à la pièce de théâtre, parce que dans la pièce de théâtre, il ne se voit pas jouer. Il peut s'entendre, il ne se voit pas. Et jouer avec des rétroviseurs, enfin ça pourrait, mais c'est compliqué. Jouer avec des glaces, oui, c'est vrai, le danseur, mais c'est bizarrement, le danseur s'entraîne avec une glace. Faut-il d'ailleurs qu'il s'entraîne avec une glace ? Grande question. Ou bien est-ce qu'au contraire, ça déforme l'art de la danse que de s'entraîner avec une glace? Grande question. Mais en tout cas, au moment où il danse, normalement, il n'a pas de place pour se regarder. Il a des spectateurs, ce qui n'est pas pareil. Voilà. Et donc, tout art transforme aussi celui qui le perçoit sensoriellement, enfin, surtout, toute personne qui en perçoit à la fois la sensorialité et la signification. Donc, toute personne affectée par cette expression symbolique. Plus ou moins consciemment, d'ailleurs. On vit dans une ville, on ne se rend pas compte que l'architecture nous affecte. On vit dans un environnement sonore, on n'a pas toujours conscience de la manière dont l'environnement sonore nous affecte. Donc, c'est un art. Deuxièmement, c'est un art auditif. C'est l'art du son. Et donc, cet art du son s'adresse à un spectre sensoriel précis qui s'appelle l'audition. Alors, si vous êtes sourd ou si vous êtes derrière une glace insonore, vous pouvez tout à fait regarder un musicien et ne rien entendre. Et il peut y avoir une... Oui, il y a une certaine chorégraphie, d'ailleurs. Mais enfin, normalement, le violoniste... Alors, on peut en rajouter. Hein. Vous avez des pianistes qui se mettent en scène théâtralement autant qu'ils jouent, mais quand même, la plupart des grands musiciens ne cherchent pas à se mettre en scène théâtralement. Qu'ils soient théâtraux, oui, parce que la production du son, c'est d'ailleurs ça qui est étonnant, ne relève pas que du bout de leurs doigts ou de l'extrême partie de l'instrument qui vibre, elle relève de tout leur corps. C'est très étonnant, d'ailleurs, c'est un art du corps. L'art culinaire n'est pas un art du corps. Enfin, vous pouvez retrouver des cheveux c'est pas le but, quoi. Vous allez retrouver une patte, un coup de main, enfin, vous n'allez pas retrouver... Le coup de main du calligraphe, ce n'est pas celui du cuisinier. Vous avez une signature chez le cuisinier, mais ce n'est pas pareil. Le corps n'est pas impliqué pareil. Dans le cas de... Alors, le son peut se créer autrement que par le corps. Hein. Vous pouvez enregistrer des bruits d'oiseaux et des bruits de je ne sais pas quoi, de voitures, et combiner le tout pour faire une bande magnétique qui va émettre des sons. Donc, on peut sans que le corps soit impliqué. Mais c'est vrai que dans beaucoup de la pratique musicale, d'ailleurs, pas que, hein, mais dans beaucoup de la pratique musicale quand même, le corps est engagé. C'est très bizarre d'ailleurs. L'instrument musical, c'est pas comme une fourchette ou une cuillère ou une casserole, comme c'est vraiment un instrument. C'est pas juste un outil, c'est vraiment un instrument. Et c'est très étonnant que l'instrument musical n'a pas d'équivalent du côté de la danse, par exemple. N'a pas d'équivalent du côté de l'architecture. Du côté du théâtre, si, c'est le corps. Il n'y a pas d'instrument théâtral. Il peut y avoir un micro qui amplifie, mais c'est technique. D'accord ? L'instrument est plus que technique. Donc le théâtreux, le comédien n'a pas d'instrument qu'il utilise. Alors il y a son corps. Avec un instrument musical du corps, dont on parlera, enfin, qui est la voix, mais pas que la voix, d'ailleurs, on peut taper dans ses mains, ça fait aussi de la musique. Ou faire des claquettes. Donc, c'est un art, on va le voir, qui s'adresse à l'audition, mais c'est d'abord un art du son. Alors, c'est très bizarre, le son, parce que la nature du son, c'est d'être éphémère. Ça ne se capture pas, le son. Ça peut s'enregistrer, mais quand on dit enregistrer, on le transpose. Le son émis, évidemment, par un disque de vinyle n'est pas le son originel, a fortiori le son digitalisé. D'ailleurs, la relation du son émis par le disque vinyle à travers un haut-parleur avec une membrane, hein, sans digitalisation, si vous voulez, n'est pas le même rapport au son originel que le son digital, bien sûr. Hein. Et donc on pourrait presque dire, même si on l'oublie, parce qu'on va voir pourquoi on l'oublie, parce que le son touche quelque chose d'affectif en nous, qui fait que, à moins d'avoir une oreille absolue ou un sens musical, enfin en gros, la vulgarisation de la musique fait que beaucoup de personnes ne distinguent plus le son premier du son, de ce que j'appellerais l'évocation du son originel. Parce qu'un disque, ça ne fait une cassette magnétique ou une cassette numérique, ou un enregistrement numérique, Si on était rigoureux, on pourrait dire que ça ne fait qu'évoquer le son originel. Parce que ça me donne... Ben oui, ça ne fait que l'évoquer, parce que ça me donne toutes ses composantes, mais pas sa chair. C'est-à-dire que vous n'avez pas de violoncelle, là. Vous pouvez ouvrir le baffle, il n'y a pas de violoncelle. Vous pouvez ouvrir le placard, il n'y a pas de violoncelle. Vous pouvez scruter votre téléphone, il n'y a pas de violoncelle. Et en plus, il n'y a même pas de musicien. C'est une catastrophe, quoi. Il n'y a plus de musicien. Donc ça fait beaucoup, quand même. Pas de musicien, pas de violoncelle. Une lettre, ça évoque les mots que m'aurait dit l'autre. Si c'est une lettre qui se veut une lettre verbale, hein, si c'est une lettre écrite, littéraire, c'est autre chose. Mais on n'a pas de musique enregistrée analogue à la littérature. On a de musique enregistrée qu'analogue à une lettre écrite comme si je parlais. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est comme un SMS, mais c'est vrai, c'est proche de... Il n'y a pas de littérature musicale. Comme il y a une littérature amoureuse. Il y a une parole amoureuse et il y a une musique amoureuse, ou une musique qui dit l'amour. Alors, un, le son est éphémère, il est aussi vibratoire, c'est-à-dire... qu'il a une origine physique. Comment dire ça ? Ce sont des matières qui entrent en contact. Il n'y a pas de son sans matière qui entre en contact. Et même sans mouvement dans ce contact. Une matière contre une autre matière sans mouvement, ça ne fait pas de son et ça ne fera jamais de son. D'accord ? Donc il y a un mouvement. Dans la peinture, une fois que vous avez peint, il n'y a plus de mouvement. Il n'y a pas de son sans mouvement. Et donc c'est très bizarre cette réalité sensible, hein, qui est une qualité sensible de la réalité, qui est une propriété d'un mouvement entre deux matières, ou entre une matière et la matière est elle-même prise comme un autre. Enfin, vous voyez, vous pouvez frotter deux morceaux de tissu, ça fait du bruit, ou les mains. Voilà, donc c'est très spécifique. Et on peut. Parce que dans la musique, chacun peut préférer. Vous avez des gens qui préfèrent les instruments, vous avez des gens qui préfèrent la mélodie, vous avez des gens qui préfèrent le rythme, vous avez des gens qui préfèrent le timbre vibratoire de la salle dans laquelle c'est joué. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Vous en avez. C'est à la fois le rythme et la mélodie, ce que j'appellerais le narratif de l'ensemble de l'œuvre. Voilà, c'est très variable. Et donc les personnes, chacun de nous entend, comprenez bien, écoute, parce que normalement on devrait tout entendre, mais en fait on écoute de manière variable d'une personne à l'autre l'origine matérielle du son. Vous avez des gens qui écoutent des violons qui n'entendent pas les cordes, ils entendent les notes. Inversement, vous pouvez entendre les cordes au point d'absorber les notes. Ça dépend de votre orientation auditive. C'est pour ça que ceux qui écoutent les notes ou la mélodie ne sont pas gênés que ça soit un CD, que ça soit numérisé. Mais ceux qui écoutent les cordes, ils ne supportent pas au bout de 15 secondes, ils disent on arrête tout là. Je me souviens, Valère Novarina, à Avignon, je fais des rencontres qui s'appellent Foi et Culture. Et alors c'est une chapelle ovale, donc le son d'une catastrophe. Donc on avait décidé de sonoriser. Valère Novarina, qui est à la fois un écrivain de théâtre et un homme qui a pratiqué aussi le théâtre, il ne voulait pas de sonorisation. Alors, débrouille-toi, hein, parce que pour gérer le son qui circule mal dans une pièce ovale pour que tout le monde entende, c'est quasiment impossible. C'est typique, parce que pour lui, le timbre de la voix était plus important que l'intelligibilité des mots. Ce n'est pas nécessairement le cas de tous les auditeurs, mais bon. Donc, il y a cette dimension matérielle de l'origine du son. Dire qu'elle est vibratoire, que le son est vibratoire, c'est aussi de dire qu'il est propagatoire. Quand Nicolas de Staël peint un petit tableau comme ça, vous le mettez dans une pièce, il ne sort pas de la pièce, quoi, hein. Vous pouvez le mettre dans un coffre, enfin, pas dans le mettre dans un coffre fort, mais vous le mettez sous une couverture et vous ne voyez plus rien, non ? Alors que vous jouez derrière une couverture, on entend encore. La propagation du son, quelque chose de très particulier. Alors, la voix du théâtreux se propage, mais pas son image. Hein. Ce n'est pas vibratoire, le mouvement. Enfin, ça l'est, mais que de manière... Alors que le son a une capacité de propagation absolument incroyable. Hein. Il y a aussi, toujours dans le son, une relation, un jeu entre l'effet et sa source, bien sûr. Donc, dans la note jouée par le violon, il y a le son émis, mais il y a le violon aussi. Et puis, il y a l'archer, et puis, du coup, il y a le musicien. Vous voyez, il y a une espèce de chaîne causale, c'est très bizarre. Là aussi, ce n'est pas le cas de la peinture. Alors, dans le cas très spécifique de la calligraphie, oui, la calligraphie surtout orientale, hein, dans la calligraphie orientale, en fait, à travers, on en avait parlé, à travers la trace qui est laissée sur le papier, vous remontez de la trace au pinceau, puis du pinceau à la main, et normalement de la main au corps et de corps à l'âme. C'est ça, c'est le chemin. Hein. Moi, je n'avais pas compris au début. Hein, parce que moi, la première fois que j'ai vu une calligraphie, c'était à Taïwan, j'osais rien dire. C'est la deuxième fois que j'y allais. Quoi. Puis j'ai dit, mais c'est un peu bizarre quand même. Parce que tu dis que c'est magnifique cette calligraphie. Moi, j'ai l'impression que le gars, il n'a pas fini son boulot. Quoi, hein. Les pleins et les déliés ne sont pas finis, quoi. Et il m'a dit, mais t'as rien compris. Je dis, bah, sûrement, mais il faut que tu m'expliques. Il m'a dit, mais regarde. Je dis, bah, c'est ce que je fais. Alors, du coup, il n'arrive pas à m'expliquer, d'ailleurs, parce qu'évidemment, lui, tout petit, il a toujours regardé ça comme ça. Alors, il m'a montré. Et j'ai compris, en le voyant calligraphié, même si ce n'est pas un grand calligraphe, mais que, finalement, c'était tout à fait délibéré, cette espèce de traînée, de truc imprécis, vous voyez, qui nous paraît, nous, comme occidentaux, pas fini, quoi. Et qu'évidemment, c'était la rythmique intérieure qui était inscrite dans le pinceau. Donc c'était comme de la danse. Mais globalement, ça, c'est... vous n'arrivez pas, on aimerait, hein, mais c'est impossible de retracer l'ensemble du premier coup de pinceau jusqu'au dernier dans un tableau de Van Gogh. Pour y passer des heures. Ou alors, il faudrait faire des analyses scientifiques, vous voyez, pour... Mais c'est très difficile. Alors que dans le morceau musical, vous avez chaque moment du morceau. C'est très bizarre, hein, ça se fabrique sous vos yeux. Vous n'êtes pas obligé de faire la cuisine devant les gens auxquels vous allez servir le plat. Mais vous faites la cuisine de la musique devant les personnes pour lesquelles vous le jouez, non? Vous êtes en train de fabriquer le truc. Les spectateurs de la peinture viennent une fois que c'est fini, non? Les bénéficiaires de l'architecture n'ont pas intérêt à se déplacer dans le chantier. Par contre, c'est très étonnant. La musique, c'est « work in progress ». Comme le théâtre. C'est vrai, quand vous respirez un parfum, vous n'entendez pas le nez de celui qui s'appelle d'ailleurs un nez, respirer toutes les choses qu'il a respirées avant. Enfin, vous ne le voyez pas le fabriquer, quoi. Ça s'appelle juste, je ne sais pas trop quoi, fleur des bois. Et donc, cette relation de cause à effet donne au son, enfin, nous donne, pardon, dans la perception du son, un sentiment de linéarité. Ce qui fait d'ailleurs que, ben, vous le savez, la musique, enfin, le son, a un rapport tout à fait particulier au temps. Que n'a pas la couleur, que n'a pas la lumière, que n'a pas l'odeur, enfin, qu'a un peu l'odeur et le goût. C'est long en bouche, on va dire. Alors, il y a aussi de la temporalité dans la peinture. Hein. Il y a de la temporalité dans l'architecture, elle n'est pas la même. Mais la temporalité, de nouveau, est dans celui qui perçoit. Alors que là, la temporalité, elle est dans l'exécution elle-même. Autrement dit, de nouveau, que vous fabriquiez votre délicieux dessert à la fraise en 20 minutes ou en 3 jours, on sera très heureux de savoir que le pudding au whisky, ça prend 15 jours ou un mois à fabriquer, mais bon, c'est le résultat qui compte. Hein. On peut te dire que ce vin, il a 120 ans, si c'est une piquette, ça ne change rien. Alors, le bon vin doit vieillir un peu, hein, parce que, par exemple, il y a l'histoire de son vieillissement qui est dans son résultat, Mais là, c'est très particulier. De nouveau, je vois le temps de la création. Et le temps de la création de l'œuvre coïncide avec le temps de la réception. C'est très particulier. La manière de vivre ces deux temps ne sont pas les mêmes. Hein. Ceux qui jouent du violoncelle au milieu d'un orchestre n'a pas du tout la même temporalité que le spectateur de l'ensemble, bien sûr. Ce qui veut dire aussi que, alors là, je passe du côté du récepteur de ce son, hein, c'est-à-dire nous, on voit bien que, on va voir, le son fait appel dans l'homme au système auditif, qui est un système corporel de perception. Mais on peut déjà dire qu'il fera sûrement appel aussi à la mémoire. Un tableau, vous n'avez pas besoin de mémoire. La musique, si. La gastronomie aussi. Le parfum, pas toujours. Mais la gastronomie, c'est clair qu'un vrai plat, c'est un plat qui a un effet dans le temps. Que la mémoire du premier moment du goût joue un rôle normalement hein, dans la vraie cuisine, hein, dans la suite. C'est très frappant quand vous allez en Corée, c'est vrai aussi en Chine, on vous sert des petits plats, mais on vous en sert 20 et c'est simplement le début du repas. Et l'art, c'est de savoir dans quel ordre il faut les prendre. Parce que l'ordre dans lequel on prend les plats, bah, c'est comme nous, le hors d'œuvre, le plat, le fromage et le dessert. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous en avez des étapes, vous en avez selon ce que vous voulez, ou 5, ou 10, ou 15, ou 30, ça dépend combien de temps vous allez manger d'abord, et puis jusqu'où vous allez composer, vous voyez, une œuvre culinaire, c'est vous qui la composez, hein, complexe. Moi, je n'avais jamais vu ça, qu'en fait, c'est toi qui fabriques ta cuisine. On ne te donne que les matériaux. Et nous, on est très perdus. Hein. On commande chez McDo un truc au choix à la carte, mais là, il faut composer. Enfin, en gros, on ne finit aucun plat. Enfin, on n'a pas, vous voyez, c'est pas... je ne mets dans mon assiette que des morceaux, des petits bouts de plat et je fabrique moi-même ma musique culinaire. Quoi. Par contre, c'est bizarre, les autres, sauf si c'est des experts en nourriture, hein, mais... Ça leur reste un peu étranger, alors que quand on joue de la musique, tout le monde entend la même chose. C'est peut-être d'ailleurs parce qu'on est peu inventif dans la créativité culinaire que nous, on parle beaucoup de ce qu'on mange. Mais bon. Souvent, en Asie, on ne parle pas de ce qu'on mange et on ne parle même pas quand on mange. Que c'est un acte à la fois artistique et c'est un acte quelque chose de cosmique, quelque chose de sacré. Manger est sacré en Orient. Alors, donc vous voyez bien que, du coup, le son est une réalité complexe, qui est, donc le son est le vecteur par lequel l'humain va exprimer quelque chose. Mais évidemment, cette expression, elle ne dépend pas simplement du son, mais de la réceptivité du son, et donc du dispositif perceptif. Parce que c'est vrai, nous ne sommes pas, enfin, vous ne pouvez pas déplacer votre oreille, vous savez... sur 12 endroits à la fois. Enfin, vous savez, quand on fabrique un disque à plusieurs pistes, on peut enregistrer plusieurs endroits de l'orchestre. C'est-à-dire que la symphonie de Beethoven enregistrée sur un disque est une symphonie qu'aucun des spectateurs n'a entendue. Aucun des auditeurs n'a pu entendre. Puisque les micros étaient répartis dans un endroit auquel je ne peux pas aller répartir mes oreilles. C'est assez simple. Donc, tu n'entends que de là où tu es. Je peux mettre 12 baffles, enfin, vous voyez, 12 haut-parleurs avec 12, mais c'est plus l'orchestre que j'entends, c'est sa restitution. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, il n'y a rien de spécial à ça. Si, tout à fait, parce que dans la peinture, ce n'est pas vrai. Alors, pas dans la fresque, hein, mais dans la peinture, tu englobes d'un seul regard la totalité de l'œuvre. Alors que le concert qu'on a joué ce soir, j'étais tout à l'heure à la MC2 où il y avait un truc de remise de prix, mais il y avait de la musique de jazz, j'ai eu le temps de me préparer, c'est la préparation. Hein. Et j'étais très frappé, c'est-à-dire que je l'entendais de là où j'étais. Mais ce qui s'est joué, comment dire ça, il y a autrement dit, hein, on pourrait presque dire qu'il y avait autant de morceaux de musique, sur le plan objectif, je ne parle pas du plan subjectif de ce que chacun en fait, mais il y avait autant de morceaux de musique que du positionnement des différents capteurs qui étaient les humains. D'ailleurs, c'est très simple, hein, celui qui co-joue avec vous, il n'entend pas du tout la même chose que les gens qui sont dans la salle. Le triangle n'entend pas l'orchestre comme la personne au quatrième rang, ni celle au balcon d'ailleurs. Ce qui veut dire d'ailleurs que si on voulait vraiment entendre un morceau de musique, il faudrait l'entendre à plusieurs, enfin, il faudrait réussir à partager réellement, mais vous voyez, ce que chacun a entendu. Alors, cette, on y reviendra tout à l'heure, mais cette perception auditive, elle passe tout bêtement par les oreilles. C'est très compliqué les oreilles. Ça descend dans le corps, pas les yeux. Tu vois à la surface de ton corps. Tu respires, enfin, on odorifère dans le nez et dans la trachée, qui est l'équivalent du goût. Donc le goût et l'odorat se mélangent pour des raisons organiques. Le toucher est périphérique, avec un toucher proprioceptif interne, mais qui est beaucoup moins précis. Et le son, c'est très impressionnant. Le son, ça m'impacte par l'oreille. En plus, on verra qu'on associe évidemment le son à la voix. Donc, émettre des sons par la voix et entendre s'enrichit l'un l'autre. Ce dont ne bénéficie pas le sourd-muet. C'est tout le problème du sourd-muet. Et donc, il y a un enrichissement l'un par l'autre qui fait qu'au bout d'un certain temps, on peut émettre des sons non pas avec tout le corps, enfin si, tu peux faire des bruits avec le bout des doigts, mais je parle de la voix, enfin vous voyez, ça peut s'emparer de tout le quand quelqu'un chante, un chanteur d'opéra, c'est tout son corps, enfin c'est pas tout son corps, mais c'est toute sa cage thoracique qui participe, c'est tout son système musculo-squelettique du centre du corps. Il peut avoir un corps au pied, ça change pas quand même sa manière de chanter. Et donc c'est particulier, je dirais. Le caractère invasif du son, on va le voir, a une conséquence majeure, c'est que du coup, le son m'impacte affectivement, très directement de l'intérieur. On n'a pas peur par l'ouïe comme on a peur par la vue. Avoir peur par l'odorat, pas trop. Enfin, parce qu'on est un peu, comment dire ça, dégénéré, au point de vue de l'odorat. Nous, on n'a pas tellement peur. Enfin, ça sent mauvais, mais ça ne fait pas peur. Enfin, sauf si c'est quelqu'un dont tu as reconnu l'odeur et que la personne est agressive. Mais on a peur par le toucher. D'accord, prenez quelqu'un par derrière, mettons la main sur les épaules. On a peur par la vue, c'est les films d'horreur. Et on a peur par l'ouïe. Mais ce n'est pas les mêmes peurs. On a peur tout seul, hein, ça s'appelle l'imagination aussi. Alors, ce qu'il faut aussi souligner, toujours on est dans la, ce qu'est la musique, hein, c'est qu'évidemment, les sens, ils sont à la fois... distincts les uns des autres, mais ils ne sont pas séparables. D'abord, parce que c'est un seul individu qui se sert de ces différents registres perceptifs, mais qu'en plus, ils sont corporellement liés les uns aux autres, ne serait-ce que par le toucher. D'accord. Parce que le toucher est à la fois coextensif à la peau et finalement indirectement à la totalité du corps. Ce qui n'est pas le cas de Louis, je n'entends pas vraiment avec mes pieds, quoi. Alors, ensuite, il y a un autre élément... toujours dans l'exploration, c'est le lien entre la musique et la parole à cause du chant, à cause du fait qu'il y a de la musique dans la... Enfin, c'est la voix, la musique de la parole, c'est la voix. Et qu'évidemment, je ne peux pas, si je suis honnête, dans une vraie analyse, je ne peux absolument pas distinguer l'histoire de la musique de l'histoire de la parole. D'accord ? Puisque c'est les deux grandes aventures de l'émission... d'un son signifiant, c'est inséparablement la musique et la parole. Et évidemment, il peut y avoir des musiques sans parole, mais il n'y a pas de parole sans musique. Il peut y avoir de l'écriture sans musique, mais il n'y a pas de parole sans musique, puisqu'il n'y a pas de parole sans voix. Et la voix, c'est une musique. Elle peut me plaire ou pas me plaire, hein, mais il y a une musicalité de la voix. D'autant plus que la voix, elle est volontaire, elle est, comment vous dire ça ? Elle n'est pas naturelle, la voix. Chez l'animal, la voix est naturelle, mais pas chez nous. D'accord ? La voix, elle est... Il est impossible que la voix ne soit pas expressive. Je ne peux pas avoir une voix distincte, enfin, séparée de mon histoire. Séparée du fait que je parle ou je crie ou j'émets un son. Alors, pas quand vous reniflez, mais même quand vous éternuez, l'éternuement, c'est très impressionnant, l'éternuement. Moi, je voudrais une fois enregistrer plein de gens qui éternuent. Je pense qu'on pourrait faire la psychanalyse des éternuements sans difficulté. Peut-être pas des clignements, des réflexes, les tics nerveux d'ailleurs aussi un peu, mais ça fait du bruit, mais moins. Mais les éternuements, c'est très bizarre, les éternuements. Enfin, le ronflement, voilà. Bon, c'est des choses... Si, le ronflement, il est même chose. Mais le ronflement, il n'est pas volontaire comme la voix. C'est-à-dire qu'on parle quand on ronfle. Enfin, on peut être à demi en train de continuer à baragouiner des choses, hein, mais ce n'est pas volontaire, là, pour le coup. Les somnambules aussi font de la musique, des fois. Mais c'est par mémoire. Et donc, cette possibilité du son qui est la voix est toujours en arrière-fond de la musique. Ça veut dire que le langage est en arrière-fond de la musique. Le langage n'est pas nécessairement en arrière-fond du parfum. Il n'y a pas l'équivalent, vous voyez. On n'a pas un langage parfumé, ça serait bien. Si on pouvait être un animal, vous savez, qui génère les parfums qu'il veut auprès des autres. On pourrait avoir une espèce de symphonie odoriférante. Non. Pour ajouter, tu peux t'acheter tous les parfums du monde, d'ailleurs, selon tes émotions. Enfin, c'est très bizarre, le corps, hein. Selon l'état émotif, la météo, enfin, tu peux contrôler ça comme tu veux pour éviter le pire, pour éviter de sentir mauvais. Mais tu ne peux pas parler. Et c'est assez univoque. Hein. C'est très bizarre d'ailleurs, parce que les marques de grands parfums, c'est une espèce de manière, si vous voulez, que le parfumeur parle beaucoup plus fort que la pauvre personne qui le porte. Le génie du parfum, c'est d'arriver précisément à ce que Calvin Klein ne parle pas plus fort que toi. Donc, il faudrait réussir à ne pas le reconnaître. Enfin, bon, bref. Mais comme il n'y a pas d'éducation à se parfumer, très fine. Enfin, voilà. En tout cas, il n'y a pas ce même phénomène qu'il y a dans la musique. C'est que dans la musique, je vous dis, dans notre mémoire, dans notre inconscient, et dans notre conscient d'ailleurs, il y a toujours le fait que ça raconte quelque chose. D'ailleurs, comme dans un discours, il y a un commencement, un début, une fin. Un milieu et une fin. Comment se fait un début, c'est la même chose. Alors ensuite, je vous disais, si on est du côté du récepteur, la sensorialité auditive auquel s'adresse la musique est corporellement la plus intérieure. Alors, avec le toucher, ça se discute, mais enfin, quand même. Le toucher est essentiellement surfaciel, même si, encore une fois, il y a un toucher qu'on appelle proprioceptif, hein, qui est un toucher de l'organe, des organes internes. Mais, encore une fois, je n'entends pas dans le pavillon, j'entends à l'intérieur. Si c'est cassé dedans, vous pouvez voir le plus beau pavillon du monde, on ne va rien entendre du tout. Et donc, ça veut dire que la musique, encore une fois, est un art qui s'adresse directement à l'intérieur. Alors que, si je prends l'exemple l'architecture, enfin, ou de la peinture, elle s'adresse à la vue, vous voyez, elle ne peut pas s'adresser directement à l'intérieur, elle ne peut pas rentrer, la peinture ne peut pas rentrer. Elle peut vous éblouir, vous pouvez ne rien voir. Alors que le musicien, vous voyez, les oreilles n'ont pas de paupières. On peut se boucher les oreilles, mais les oreilles n'ont pas de paupières. Voilà, donc il y a une dimension intérieure, affective notamment, et même, pour être plus précis, c'est un sens extrêmement subjectif, Louis. Donc la musique, on va le voir, a cette particularité de combiner l'objectivité des notes, l'objectivité du monde du son, dont les notes ne sont que le diagramme, hein. Le monde du son, il a une objectivité. C'est-à-dire, ça passionne ça, les philosophes et plein de gens d'ailleurs, hein, et les musiciens, en quoi est-ce que il y a quelque chose d'universel dans l'échelle des sons. C'est ça les notes. Et qu'il y a des harmoniques qui révèle quelque chose de l'univers lui-même. Ce n'est pas très facile d'ailleurs d'établir des correspondances rigoureuses. Mais s'il y a une objectivité de la musique, il y a aussi une subjectivité de la perception. Et sans doute que le génie de la musique, c'est cette tension entre les deux. C'est hyper subjectif, tout en ayant quelque chose d'une expression universelle. Et cette subjectivité, elle est affective, c'est-à-dire que la musique s'adresse très immédiatement au cœur. Pas simplement au cœur physique, mais au cœur symbolique. Ça nous affecte au cœur. Pas la techno, hein. Mais la techno, ça t'affecte au trip, c'est pareil. Qui est une manière de manipuler le cœur aussi. Et ce qu'on peut dire, du coup, dans cette lumière-là, c'est que dans la musique, les différents instruments permettent de symboliser ce qu'on pourrait appeler les palettes de l'âme. Parce que quand vous additionnez tous les instruments du monde, dont tout un nombre, d'ailleurs, ont disparu, hein. C'est très étonnant de voir, vous savez, les gens qui font des recherches, qui à partir, par exemple, des dessins ou de l'iconographie médiévale, tentent de fabriquer des instruments qu'on a plus sous la main, mais qui en sont les ancêtres, qui en sont les ancêtres de ceux qu'on a sous la main. Et c'est très étonnant de voir comment est-ce que, non seulement chaque instrument a une palette sonore étonnante, non seulement les différents instruments ont une palette sonore étonnante, mais évidemment leur résonance les uns avec les autres font de la combinatoire sonore à l'infini. Donc, comme il y a une palette dans l'ordre de la peinture, comme il y a une palette dans l'ordre du jeu des volumes dans l'architecture, il y a une palette des sons. Et évidemment, comme dans l'art de l'architecture, de la danse, par le geste, du parfum, de la gastronomie, de l'étoffe, ce qui est un art du toucher, eh bien, il y a de la même manière, il y a une palette des sons. Alors, est-ce qu'on peut les comparer ? Voilà. Vraie question. Et ce qui est très étonnant, c'est que l'ensemble de ces instruments ou l'ensemble de ces bruits émis par ces objets, et la variété des sons qu'on peut faire avec le même objet, et leur combinaison, c'est vrai, j'allais presque dire, couvre un champ très vaste de notre âme, je ne sais pas comment dire ça mieux. C'est comme si ça permettait, dit très différemment de la peinture, de saisir l'ampleur de l'âme, la musique. On va le revoir. Des variations à l'infini. Et ça atteint l'âme, à la fois, on l'a vu, dans sa subjectivité, mais aussi dans sa mémoire, qui fait partie de son identité. Ce que j'ai vécu, la mémoire existentielle de mon existence, qui n'est pas seulement le souvenir, d'ailleurs. Voilà, la musique vient jouer avec ça. Elle vient jouer avec la mémoire de mon âme. Elle vient pas simplement jouer avec chaque instant de ma vie, elle vient jouer avec ma propre histoire. Et ce qui est très étonnant, c'est que, là encore, le fait que le son ne soit pas visible, c'est très bizarre. Je vois ce que je mange. Je vois ce que je respire. Je peux regarder ce qui est joué. Enfin, vous voyez, mais la relation de la vue au goût, à l'odorat, au toucher et au son n'est pas le même. Et on peut presque dire que le plus invisible des objets sensibles, c'est le son. Des qualités sensibles, c'est le son. Et il y a une magie de l'invisible du son. Et puis, la deuxième magie du son, c'est sa diffusion presque à l'infini qu'on entrevoit dans l'écho. Alors, vous voyez bien que si on veut aller au bout, il faut ajouter deux choses. D'abord, le fait que cet art musical Enfin, nous ne prenons véritablement la mesure de l'ampleur de l'art musical qu'en le combinant avec d'autres. L'art musical n'a pas la même place. Enfin, la musique ne résonne pas pareil quand elle rentre en résonance délibérée avec la peinture, avec le parfum, avec la nourriture, avec la danse, avec la sculpture, avec le vêtement. C'est le cas de la danse, c'est le cas du théâtre. Et aujourd'hui, vous le savez bien, il n'y a pas de frontière stricte entre chorégraphie, théâtre, musique, déclamation, littérature. Il n'y a pas de discontinuité. Un texte littéraire peut être mis en scène avec un élément à la fois chorégraphique, sans parler de l'odeur, du vêtement. Enfin voilà, donc vous avez une espèce de palette. Et la musique d'un opéra, In Vivo à Orange, par exemple, théâtre d'Orange, avec un bon Mistral qui vous gèle quand vous êtes au 20e rang, c'est pas la même musique que celle que vous écoutez dans votre petit fauteuil douillet, uniquement la musique. Alors là encore, hein, la déformation auditive qu'opère chez nous le support numérique, c'est-à-dire qu'en gros, 80, ça dépend des personnes, mais 10% de la musique que j'entends, elle n'est pas directe, c'est du numérique, ce qui est énorme. Dites-vous qu'il y a 2 siècles, il n'y avait aucun système d'enregistrement sonore. Donc tu avais le son live ou rien. Et là, tout d'un coup, tu te dis, mais c'est un autre monde. Live ou rien. Pas de transmission. Alors si, vous savez, c'est la chambre de l'écho où il y en a une à la Chaise Dieu, il y en a une autre à Rochefort-du-Gâteau, c'est pour confesser le lépreux, là. Vous voyez pas ça? C'est des pièces dans lesquelles l'arc transmet le son et donc le confesseur se mettait à un bout, parce qu'évidemment, tu ne vas pas te confesser à voix haute. Donc il y en a un qui se mettait à un bout et le lépreux ou le contagieux se mettait à l'autre bout. Et en parlant à voix basse, dans un coin, la voûte transmettait le son. Donc, c'est un son, c'est lancer du téléphone, si vous voulez. Donc, c'est le seul cas. Un peu difficile à transporter, d'ailleurs. Hein, parce que si chaque fois, tu dois te déplacer avec un arche de pierre, si tu veux communiquer à distance, puis c'est assez court comme distance, c'est juste pour éviter la contagion par toucher. Mais voilà, ça veut dire que... Et c'est vrai qu'il faudrait faire un effort, ça. Qu'est-ce que ça donne, une vie... D'ailleurs, vous pouvez essayer, hein, ça s'appelle, 5 jours d'ermitage. Sans téléphone essentiellement, si vous n'emmenez pas de CD ni rien, aucun objet technologique, ben voilà, vous vivez 5 jours sans aucune... Alors là, vous allez me dire, ben, je ne vais pas entendre beaucoup de musique. Voilà, et donc c'est pour dire que si je soulignais ça, c'est parce que l'hypertrophie de la musique entendue par support numérique, c'est-à-dire la démultiplication des sources auditives musicales, du coup, amoindrit la perception que nous pourrions avoir que la musique combinée aux autres arts n'a pas la même valeur que la musique tout court. Ouais. Parce que, vous le comprenez bien, le support, l'enregistrement abstrait, la musique. C'est une abstraction, un enregistrement. Et donc, n'entendant que des abstractions, je rate quelque chose de la matière même du son, et donc de la matière même de la musique, et donc de son interconnexion avec le reste du monde sensible. Deuxième dimension pour conclure, sur de quoi parle-t-on, c'est évidemment la dimension politico-sociale de la musique. Pourquoi est-ce que la musique a tant de place dans la vie collective? Beaucoup plus que la peinture, beaucoup plus que la sculpture. Parce qu'elle rassemble. D'abord parce qu'elle... elle rassemble, puisque la capacité de diffusion musicale permet qu'un très grand nombre soit rassemblé dans la même œuvre. Passant par la même œuvre, mais dans la même œuvre, puisque nous entendons ensemble, ou nous chantons ensemble. Donc le son permet une fusion les uns dans les autres, aussi bien dans l'émission que dans la réception. Donc ça crée du collectif, le son, intrinsèquement. Donc ça crée un défi politique, quoi. Qu'est-ce que tu fais de cette capacité de fusion que crée le son? Tu chantes à Ilialo, tu chantes, je sais pas trop quoi, l'ode à la joie, tu pousses des hurlements dans ton concert de death metal, tu fais quoi? Deuxième élément, il y a une espèce d'universalité de la musique. Enfin, l'universalité musicale est plus accessible que l'universalité, il y en a une dans la peinture, il y en a une dans l'architecture, bien sûr, il y en a même une dans le goût. Mais c'est très bizarre que là où on rentre le plus rapidement en résonance avec une autre culture que la sienne, c'est par la musique. Pas n'importe quoi, hein. Vous vous souvenez pas, il y a un film de Sagittaré qui s'appelle le Salon de musique. Moi, c'est la première fois que j'entendais, je vais voir, 16 ans, c'est la première fois que j'entendais de la musique indienne, faut aimer quoi, hein. Genre un peu répétitif, que tu as l'impression qu'ils font du bruit ou que tu comprends rien du tout et que ça dure des heures. C'est un peu comme le théâtre de nous, quoi. Si tu n'es pas initié, tu te demandes c'est qui ces gens. Enfin, ceci dit, les gens de là-bas, ils débarquent dans une rêve partie, ils se demandent aussi c'est qui ces gens. Hein. Et peut-être que s'ils débarquent à la salle Playel avec des gens habillés de manière tous plus ridicules les uns que les autres, en ayant payé une fortune pour un type qui fait du pling-pling-pling sur un machin, peut-être qu'aussi ils se disent c'est bizarre ces gens. Voilà. En tout cas, la musique, elle a quelque chose à voir avec le politico-social, pour le meilleur et pour le pire. Donc, elle est quelque chose d'un langage universel. Donc, la musique, vous voyez, c'est presque un anti-Babel, quoi. Ça transcende quelque chose de la diversité des langues. Sans doute parce que ça touche à quelque chose d'un langage fondamental de l'âme. Alors aujourd'hui, puisque c'est notre sujet, aujourd'hui et demain, qu'est-ce qu'on peut dire de la musique aujourd'hui? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que tous les hier sont accueillis dans aujourd'hui, musicalement. Puisque nous avons, enfin, la manière d'enregistrer, de recueillir ou de repratiquer ou de perpétuer des musiques et des chants extrêmement anciens, vous voyez, ancestraux, et de les faire connaître les uns aux autres, c'est quand même une des grandes caractéristiques de l'usage de la musique au 20e siècle, d'abord, on a perdu le 21e. Hein. Donc, l'accès des citoyens de cette famille humaine au patrimoine musical de l'humanité est incroyable. Et là, pour le coup, l'enregistrement et la digitalisation est quelque chose d'inimaginable. C'est beaucoup plus difficile techniquement d'avoir un film qui est la qualité avec laquelle il a été produit, c'est-à-dire qui est fait pour être projeté avec un projecteur et donc qui n'est pas derrière un écran. Tout le monde n'a pas un home cinéma avec des bandes refabriquées. Puisque vous savez peut-être que, j'ai découvert ça moi en suivant un film, c'est que vous avez, alors des fois c'est du film numérique, mais des fois vous avez le film, vous avez le film sur pellicule qui est le vrai, le premier, l'original. Puis après ça, vous avez le film digitalisé, et dans la digitalisation, vous avez le Blu-ray, enfin vous avez 3-4 formes, avec des étalonnages d'ailleurs de couleurs qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour dire qu'avant que tu aies l'original, oui, il faut que tu aies une salle de cinéma. Quoi. Alors que là, tu as ton... Alors on va dire ceci dit, ça revient exactement au même, puisque dans ton iPad, ou dans ton iPhone, ou dans ton truc, de toute façon, tu n'as pas le violoncelle, c'est vrai, je n'ai pas le violoncelle. Donc c'est ça le paradoxe, je n'avais pas pensé à ça. C'est que sur ton écran de tablette là, t'as un film de mauvaise qualité, mais ça a quand même été une image produite. T'es plus proche de l'image produite que tu ne l'es finalement avec ton iPhone à écouter un violoncelle, parce qu'il n'y a pas du tout de violoncelle dans ton iPhone, alors qu'il y a une image. Et que, quand le film a été tourné en numérique, nous ne devrions écouter en numérique que ce qui a été émis en numérique. Non, ça n'était rigoureux. Enfin bref, le rapport de l'image à la numérisation n'est pas tout à fait, n'est pas le même que le rapport du son à la numérisation, pour être simple. En tout cas, j'irais, quoi qu'il en soit de tout ça, malgré tout, l'accès à une certaine forme de culture musicale, de diversité musicale, d'un nombre très important de personnes sur cette planète est quand même une des grandes caractéristiques de la deuxième partie du XXe siècle et du XXIe siècle. Et d'une manière qui est, comprenez bien, qui est sans commune mesure avec la peinture, avec la sculpture, avec la littérature, quoi qu'il en soit des liseuses, avec la gastronomie, enfin, vous voyez, avec le théâtre. Voilà, donc c'est là, vous avez un... Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire ça. Les outils de communication contemporains permettent une percée musicale absolument... voilà, il n'y a plus de concurrence possible, quoi. Pour ça, d'ailleurs, que les pauvres musiciens, là, ils ont bien compris qu'il va falloir qu'ils trouvent un autre système économique que les droits d'auteur, qui sont des espèces de manières... J'ai rien contre la SACEM, hein, mais c'est nécessaire tant qu'on gagne des sous. C'est comme tant que SFR, Orange et Bouygues s'étaient, vous voyez, mis ensemble pour faire une mafia collective en attendant que Free débarque. Là, c'est pareil, quoi. Le jour où tout d'un coup, tout ça va exploser, la pauvre SACEM, elle fera ce qu'elle pourra. Voilà. Alors, elle poursuivra encore les gens à Avignon parce que tu as prononcé 12 lignes de je sais pas trop quoi... Enfin, j'exagère un peu. T'as des descendants de Saint-Exupéry, donc dès que tu prononces Le Petit Prince, il faut que tu payes. C'est la même chose pour Tintin, d'ailleurs. Enfin, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas se battre, mais c'est des combats d'arrière-garde, ils sont perdus d'avance, quand même, tout ça. Et donc, qu'est-ce que ça a fait, le fait que tous les hier soient présents dans l'aujourd'hui sonore ? Ben, c'est qu'on entend la symphonie du monde dans la musique, la symphonie des peuples, la symphonie des cultures, la symphonie des classes sociales. C'est incroyable, c'est une audition on entend l'humanité dans la musique comme on l'entend nulle part ailleurs. Vous n'avez pas le death metal en peinture, il n'est pas en architecture non plus. Hein. Vous n'avez pas la techno en gastronomie. McDo, c'est pas la techno de la gastronomie. Hein. C'est pas de l'art, la techno aussi, le death metal aussi. Enfin, faut apprécier. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a initié au death metal. Les différences entre deux cochons qu'on égorge, mais en fait, c'est des chanteurs. Et il faut que tu comprennes qu'il y a de la musique. C'est vrai d'ailleurs. Mais il faut t'habituer au début du premier choc. C'est que toi, tu n'entends pas des gens qui chantent, tu entends des chants qui hurlent. Tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Puis à force de t'entraîner, avec un petit peu de recul, tu distingues des notes, des sons, des paroles. Et oui, d'une forme de musicalité qui est particulière. Hein. Tu as bien des gens qui entendent les infrasons et pas les autres. Hein. Bah, t'as des gens qui écoutent la musique des hypersons et pas les autres. Et pas simplement la symphonie des peuples, des cultures, des classes sociales, mais aussi la symphonie, moi, je dirais, des parties de l'âme. Parce qu'effectivement, chaque peuple, je pense, musicalement, dit quelque chose de différent. C'est tout dans le même morceau. Moi, je suis allé au Togo. C'est le Togo, oui. Bah, quand au Togo... Vous avez au moment de la messe, un moment, normalement c'est un peu sérieux la messe, hein. Et comment de l'offertoire, qui est un peu moins sérieux, mais enfin quand même, et que tout d'un coup ils amorcent un tcha-tcha-tcha, vous dites ça va pas du tout, quoi. On va pas tcha-tcha-tcha dans la messe, quoi. Et qu'un peu plus loin ils vous font l'amour a fait les premiers pas, vous dites on est où là ? Eh bien, juste respect. Parce que la culture est capable de. Là-bas ils sont capables de cannibaliser complètement, de tropicaliser, pardon, de l'intérieur. Le tropical, il cannibalise aussi, c'est-à-dire qu'il mange le truc, il le réajuste, et à la fin, t'as un truc passionnant, alors qu'originellement, version française, c'est ridicule. L'amour a fait les premiers pas, c'est quand même ridicule, comme chant d'église. Et ben, pas au Togo. Voilà. Et donc, c'est ça, la couleur de l'âme. C'est que là, tu vois que l'âme, elle est passée dans le truc, elle t'en a fait autre chose. Et d'ailleurs, t'entends... Tout d'un coup, tu vois les corps, alors que tu les vois pas dans la version sirupeuse et lamentable de je ne sais pas qui est-ce qui a inventé ce chant-là. Mais... Parce que là, évidemment, ils chantent comme ils dansent. Et ils dansent dans ce qu'ils chantent. Et ce n'est pas la même chose en Guinée, au Togo, au Cameroun, et ce n'est pas la même chose au Cameroun Nord, au Cameroun Sud, ce n'est pas la même chose d'une tribu à l'autre. Nous, la Marseillaise, globalement, à part les Basques et par les Corses et les Bretons, c'est à peu près pareil. Parce qu'ils chantent autre chose à la place. Et on doit associer à ça quelque chose qui est très simple, hein, qui est politico-social, c'est la démocratisation de la pratique musicale. Mais, évidemment, il y a un mais. On est aussi dans un phénomène de saturation qui est lié, je vous le disais tout à l'heure, à l'ampleur de l'impact des supports musicaux de deuxième degré, hein, c'est-à-dire qu'il y a des reproductions ou des reproductions d'enregistrements. Et donc, il y a une espèce, à la fois, cette omniprésence a aussi des défauts. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des endroits où on aimerait pouvoir s'extraire. Et puis, il y a l'invention, comment l'appeler ça ? On ne peut pas appeler ça la trash music, mais le truc que tu as dans le supermarché, là, ou la musique que tu as, le bip-bip de la SNCF, enfin, ça n'existait pas, ça. Les jingles, alors, oui, tu as des jingles intelligents, mais tu as des jingles débiles, quand même. Bon, ça n'existait pas, ces trucs-là. Et donc, il y a une espèce de... Je ne sais pas comment le qualifier. Dans l'histoire des hommes, on n'avait pas inventé la musique débile. Vous voyez ? Alors, on va dire de la musique commerciale. Ça veut rien dire, commerciale. La musique... Vous n'avez jamais vu des gens qui enregistrent... Vous savez, c'est la musique des supermarchés, là, c'est la musique qui se veut jazzy, mais qui est enregistrée au kilomètre. Voilà, moi, j'avais vu une fois un reportage sur les gens qui font ça. Alors, c'est juste qu'ils ne tricotent pas en même temps qu'ils jouent. Enfin, vous voyez, mais... Et ils vous font ça... Ils gagnent leur vie en vous enregistrant 5 heures par jour, vous voyez, et ça, vous reconnaissez d'ailleurs, pour le coup, là aussi, alors c'est l'inverse de la tropicalisation, mais la réutilisation très lointaine de bons morceaux transformés en lavasse complètement, vous voyez, insipide, comme la mode de troisième zone, c'est-à-dire que c'était plus dans l'imitation du grand couturier, mais c'était dans l'imitation, remixé, customisé, repassé dans 3 pays du monde, qui à la fin te donne un truc qui juste, tu te demandes s'il faut s'habiller, hein. Tu dis, mais une serviette sert à mieux. Hein. Voilà, et donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose là, je ne sais pas comment le qualifier, d'une dégradation, on va dire comme ça, de la symbolique, qui n'est quand même pas rien. Du coup, on peut aussi émettre le fait qu'il y a une difficulté de la créativité. Il y a beaucoup de... Comment on appelle ça ? De remix. Vous voyez, on recombine à l'infini. Alors... Bien sûr qu'il y a quelque chose comme ça dans la musique, de la recombinaison. Mais quand même, il y a une créativité musicale qui n'est pas que dans la recombinaison. Et on voit bien qu'on a quand même beaucoup de mal là à émerger de la recombinaison. Alors, il y a la musique populaire, hein, et là, il suffit qu'on ait tout d'un coup, non pas un auteur, mais un interprète, qui par sa présence, vous voyez, pulvérise les écrans. Mais je parle de la créativité musicale, plus profonde, dans le domaine du chant populaire. Pas beaucoup de créativité, pas énorme. Hein. Du chant sacré. La musique classique, j'aime pas le mot, on pourrait parler de musique savante. Si la musique savante, c'est simplement des gens qui ont été un peu, qui ont reçu une éducation au son un peu plus poussée que les autres. C'est ça, la musique savante. Hein. La musique savante, ça joue aussi bien sur le jazz, pour moi, que sur Gershwin. Enfin, vous voyez, je ne distingue pas enfin, j'aime pas d'ailleurs le mot musique savante. On ne peut pas dire que l'autre, ce n'est pas artistique, vous voyez, mais une musique qui pousse plus loin les choses, on va dire. Pour avoir des nains de jardin, ce n'est pas de l'art sculptural, quoi. De la même manière que... Enfin, je vais aller dire Botero, mais ce n'est pas vrai. Enfin, bon, bref. Et donc, la créativité, les dernières, c'est quoi pour le coup, c'est de la musique, pour le coup, un peu savante, la dodécaphonie, Stockhausen, Boulez, je ne connais pas beaucoup d'autres gens que ces deux-là, parce que... Déjà, pour les apprivoiser et réussir à entendre quelque chose, il faut s'entraîner. Et puis, voilà, dans les 30 dernières années, à part la techno, je ne vois pas grand-chose. Est-ce que la techno est une vraie invention ou est-ce que simplement c'est de l'électroacoustique poussée un peu à l'extrême en poussant sur les basses et en mettant 20 000 personnes, vous voyez. Je ne suis pas sûr qu'entre le mix... Voilà, donc y a pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait une énorme... Je crois même qu'il n'y en a pas d'originalité majeure dans la techno. Voilà, donc vous avez, y a plus, c'est impressionnant aussi que tout d'un coup, il y ait depuis 20 ans, 30 ans, quasiment plus de créativité musicale au sens fort. Il y en a un, mais peu. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans une problématique de confusion des genres, de perte de goût ? Il y a une question là. Alors, comment aller vers plus loin ? Alors, d'ailleurs, si vous regardez dans la musique, j'ai essayé de réfléchir, dans cette créativité, je vous dis, je prendrais, que ça soit la techno, que ça soit cette musique plus savante d'un Stockhausen ou d'un Boulez, que ça soit, ou d'un Miles Davis, parce que c'est des fois aussi compliqué, on se dit, sur quoi est-ce qu'ils ont travaillé ? C'est très étonnant, le travail, je trouve, de la musique la plus récente, c'est le travail sur les limites de l'audible. et le bruit. C'est très bizarre. Beaucoup de travail sur le bruit. Vous voyez, c'est... Mais c'est un peu comme la peinture à partir de Picasso et de Braque. C'est, vous voyez, il y a un travail de ce qu'on appelle de déconstruction du son. Parce que bien sûr, les sons, c'est des bruits. Mais normalement, on ne rajoute pas des bruits dans les sons musicaux. Voilà, il y a tout un travail contemporain qui est d'ailleurs, qui va du rock électro, à, vous voyez, à, je vous dis, à Stockhausen, c'est d'introduire le bruit comme composante musicale réelle, ce qui n'est pas inintéressant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans doute qu'on a besoin de revenir à une espèce d'origine. Comme quand Picasso et Braque déconstruisent le visage ou le portrait ou le figuratif. C'est pour revenir. Vous voyez, on va avoir bientôt l'expression d'un d'un artiste contemporain que j'aime énormément qui s'appelle Ernest Pignon-Ernest. Donc, je suis heureux, parce que je pense que c'est la première fois depuis que je suis à Avignon, c'est depuis une dizaine d'années, qu'on a un artiste qui est à la mesure du Palais des Papes, donc qui va pouvoir vraiment s'attaquer à cet espace. Ben, cet homme, c'est très bizarre, hein. On voit bien, je dirais que c'est un homme qui est postmoderne, parce qu'il retravaille sur des choses qui sont figuratives. Hein, c'est du dessin, et vous voyez tout de suite ce qu'il dessine. Et pourtant, on voit bien que dans sa manière de travailler, il a assumé tout ce travail de cette phase de réflexion, à la fois un peu intellectuelle, un peu... Vous voyez, et on voit bien que le travail sur le bruit, c'est de revenir à l'origine de la musique. Revenir sur les sons. Et de l'autre côté, c'est les limites de l'audible. Donc là, c'est plus sur le son, mais c'est sur l'ouïe. Vous voyez, on travaille sur les frontières. Je ne sais plus quel est cet auteur là, où il y a un morceau totalement silencieux, vous savez. Cage, il s'appelle. Non, il n'y a rien sur la partition. La partition originale vaut très cher. Alors, quel avenir? Alors, évidemment, là, je balbutie. Hein. Ça, c'est plus... D'abord, il me semble qu'il y a un contexte, c'est... on sent bien qu'il y a une relation entre l'usure musicale et la perte de l'intériorité. Et donc, moi, je dirais que... Moi, j'aurais tendance, comme philosophe, à dire première proposition, la musique comme sauvetage de l'intériorité. Et le sauvetage de la musique par l'intériorité, les deux. De nouveau, la musique, c'est intérieur. Et donc... Si on veut renouveler la musique, il faut retourner à l'intérieur. C'est bien le son, c'est bien l'ouïe, mais la troisième chose, c'est l'intérieur. Parce qu'encore une fois, c'est un son qui vient impacter aussi bien organiquement que psychiquement, que spirituellement, culturellement, l'homme à l'intérieur. Et donc, il y a des chances que la musique du futur... si elle veut être innovante, renouvelante, passe par une maturation intérieure plus grande. En tout cas, c'est sans doute pas dans l'extériorité sonore qu'on avancera beaucoup. Ce qui va évidemment avec ça, c'est le silence. Le silence est essentiel dans la musique. Est-ce que le silence est un non-son? Oui, le silence est une absence de son, mais le silence n'est pas une absence de musique. Le silence fait partie de la musique. La musique, elle est tissée avec des sons et du silence. Et de la même manière que les sons n'ont plus la même valeur selon les silences et la valeur des silences, les silences n'ont pas la même valeur selon les sons qui les précèdent et qui les suivent. C'est impressionnant, ça. Et ça, c'est ce que c'est ce dont l'enregistrement, qu'il soit vinyle ou numérique, ne comporte qu'une trace très lointaine, et encore plus lointaine dans le numérique que dans le vinyle. Il n'y a plus de silence. Très bizarre. Vous avez plus de silence dans un vinyle qui chointe encore un peu dans l'endroit où ça ne joue plus que vous n'en avez dans le numérique, dans lequel vous avez une absence totale de son, mais ce n'est pas un silence. Donc ça, c'est le premier travail. Puis il y en a un deuxième, c'est la réinvention du son sur l'arrière-fond, à mon avis, de ce travail sur l'intériorité et le silence. Alors, du coup, je vois trois pistes, moi, de cette réinvention du son et qui se combinent, vous allez le voir, avec l'intériorité et le silence. La première, c'est auprès de la nature. Ce n'est pas une mode. L'Occident a quitté le corps à partir du XVIe, n'y est toujours parvenu,
ou corps.
Elle s'occupe des organismes, mais pas beaucoup des corps. La médecine s'occupe beaucoup des organismes. Quelques médecins parviennent, malgré la technicité et l'état des gens, à continuer à s'occuper des personnes dans leur corps. Mais ça, c'est des grands médecins. Et rien dans la formation médicale, d'ailleurs, ne vous forme à ça. C'est-à-dire que vous percutez des organismes et vous rencontrez peu des corps. En plus, l'économie ne vous en laisse pas le choix. Enfin bref, c'est très compliqué. Les processus de vérification de process, la traçabilité pour éviter les procès. Enfin, donc le pauvre intervenant médical, il est tellement flippé par quantité de choses qui n'ont rien à voir avec le pauvre patient, avec son corps, qu'évidemment, il débarque chez le patient avec toutes les inquiétudes et l'hypersciences qui est la sienne. Donc, comment vous voulez qu'il y ait un espace pour la rencontre du corps d'autrui qui précisément réclame de laisser tomber tout ça, comme ça. Parce que si vous rencontrez les gens avec tout ça derrière la tête, vous ne rencontrez rien. Et donc, c'est la nature. C'est-à-dire qu'il y a une, on voit bien hein, qu'il y a un réapprentissage de l'écoute des sons naturels. Je pense que la musique, elle recommence là. S'apercevoir que, oui, le monde matériel a sa musique propre. Et chaque réalité naturelle a une musicalité particulière. C'est marrant, parce qu'on vous dit qu'il y a un bruit fondamental dans l'univers. Je trouve ça très marrant. Il n'y a pas de bruit. Hein. Mais le grand radar, machin truc, là, il vous capte un espèce de bruit de fond. Alors, on vous dit que c'est un bruit de fond. Oui, c'est la retranscription magnétique du truc fait... Enfin, je ne sais plus très bien quel est le bruit, mais enfin, ça fait un bruit, quoi. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a du bruit. Non. Mais par contre, je trouve ça bien, moi, d'écouter le silence de l'univers et d'écouter qu'est-ce qu'il raconte dans sa musique. D'autant plus que nous, on est des malades de l'hypervisualité, puisqu'on a quitté le corps, on a quitté aussi l'audition, puisqu'on arrête d'écouter depuis... vous voyez, la cessation de l'écoute, malheureusement, c'est une invention théologique. Il faut savoir qu'on a arrêté d'écouter quand on a commencé à remplacer la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui parle, par les commentaires des gens qui sont censés savoir ce qu'il a dit. Vous voyez, en gros, le problème. Quand la religion remplace le texte sacré, le discours, le commentaire remplace la source vivante, et du coup, il n'y a plus d'écoute. Celui que tu lises, tu n'as plus besoin d'écouter. Parce que le commentaire, tu peux l'écrire. La parole, il faut que tu l'entendes. Un commentaire, ça se lit, pas une parole. La parole, ça s'entend. Un commentaire, non. C'est pas la peine. Donne-moi ton commentaire, laisse-moi la parole. Alors qu'en plus, le commentaire prétend être plus intelligent que la parole elle-même, bon, c'est comme si, si on allait lire les critiques d'art au lieu d'aller voir les pièces. Oui, c'est un peu le genre. Donc, j'ai rien contre les théologiens, hein, j'en suis un, mais... Normalement, tu n'es pas chargé de commenter, tu es chargé d'aider à entendre, c'est pas pareil. Voilà, en tout cas, bref, on a arrêté d'écouter. Donc là aussi, aller écouter la nature, on a quitté le corps et arrêté d'écouter. Donc si on va écouter jusqu'à réussir à entendre les réalités matérielles, naturelles, il y a des chances qu'on se réinitialise et dans l'écoute et dans l'art du son. Si je me souviens bien, d'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Miles Davis, quand tu sais, il a passé une grande période où il ne faisait plus du tout de musique, il a ressorti à la fin, il a ressorti un truc. Et moi, je me suis aperçu que je suis pas... Enfin, comment dire ça ? Il faut un niveau, d'avoir débrayé du monde suffisamment grand pour apprécier sa musique. Quand tu es dans le bruit, il y a des musiques que tu ne peux pas apprécier parce qu'elles ont été créées du fond du silence. Donc voilà, réapprendre de l'univers matériel le son. Deuxième lieu de réinvention du son, auprès de la vie intérieure. De la vie silencieuse. Et de la vie humaine silencieuse. Aller travailler sur l'imperceptible. De la même manière qu'il y a des signaux faibles qui souvent disent de l'état de la personne que nous avons devant nous beaucoup plus de choses que ce qu'elle raconte. Vous savez, le nombre de gens qui vous disent non, mais ça va très bien. Tu as 1000 indices qui montrent que ça va pas bien du tout, en fait. Tu as d'autres qui disent ça va très mal et tu vois 1000 indices qu'en fait ça va très bien. C'est juste du narcissisme un peu régressif. Et c'est la même chose pour le son. La musique n'a pas besoin d'être forte, n'a pas besoin d'avoir un volume élevé pour être forte. Vous voyez, la musique peut être au seuil de l'imperceptible. Voilà, je suis certain que, parce que c'est ce qu'on découvre dans un vrai monastère, c'est ce qu'on découvre aussi dans une vraie relation humaine apaisée, c'est que la musique de la parole et même la musique de la vie quotidienne donne un rapport au son qui est différent du vacarme. Il y a moins de bruit. Mais on pourrait presque dire être à l'écoute d'une vie où il y a moins de bruit. On pourrait dire ça comme ça ? Dans lequel chaque son est porteur d'une signification. C'est ça le non-bruit. Pour le coup, moi, j'ai une mémoire, elle est lointaine, non, hein, mais petit de voir que il y a beaucoup moins de bruit dans la pièce centrale d'une ferme. Enfin, il y avait beaucoup moins de bruit dans la pièce centrale d'une ferme, paradoxalement, même quand de temps en temps la radio était allumée, que dans le bavardage d'un repas bourgeois. Ça m'avait beaucoup frappé, parce que moi, je pouvais la matinée être dans l'un et le midi être dans l'autre. Et ça m'avait frappé, comment est-ce que dans le deuxième cas, il y a beaucoup de bruit, parce qu'il y a... Enfin, on parle assez vite pour ne rien dire. Enfin, la logique bourgeoise, c'est qu'on parle assez vite pour ne rien dire. La logique paysanne, qu'on ne parle pas toujours de manière très française, on parle assez rarement pour ne rien dire. Même quand on s'énerve, ça dit quelque chose de la personne. Vous voyez, il n'y a pas de jeu. Enfin, il y a un jeu, mais il n'y a pas de camouflage. Voilà. Le son ne dit pas rien, alors que dès que je me cache, je me débrouille pour que le son de surface que j'émets, les paroles, tout ça, le bruit, là, trompe son monde. Donc, ça veut dire que ça ne dit rien. On est dans le faux semblant auditif. Voilà. C'est ça ce que j'appelle aller écouter la vie silencieuse. Je n'écoute pas beaucoup la radio, mais de temps en temps, ça me frappe beaucoup, c'est qu'on reconnaît tout de suite France Culture. Dans ce qu'il a de meilleur. Hein. Il y a une période où France Culture, tu reconnaissais tout de suite, parce que de toute façon, tu avais un ton qui était tellement perché dans la snobinarderie intellectuelle, que, mais ce n'est plus du tout ça. Et moi, je me suis très frappé, vous savez, quand vous avez des... Quand précisément, les gens qui enregistrent une émission avec des rencontres de gens travaillent enfin, sont très attentifs à la bande-son de ce qui se passe. Ben, c'est très étonnant, là. Vous avez des ingé-sons, c'est des artisans, c'est des joailliers du son qui sont capables d'aller vous attraper des choses. Ce n'est pas que dans le cinéma, c'est aussi dans les émissions de radio de ce type-là, les reportages. Et moi, j'ai vu des gens être capables de capter des sons, c'est ça la vie. Ils vous captent la vie silencieuse. Et quand il y a un bruit, ce n'est plus un bruit, c'est une musique. Voilà. Ces gens-là, ils sont intéressants. Un véritable... un ingénieur-son qui est un vrai artisan, il vous apprend le son silencieux. Et l'imperceptible, je pense que c'est dans l'imperceptible que l'au-delà, c'est-à-dire ce qui nous dépasse dans notre propre existence traverse le son. C'est pas dans le bruit. Les moments où la musique est explosive et symphonique n'est pas le moment où est dit. Vous avez un morceau, un texte dans la Bible où Élie est dans la montagne, là, et Dieu lui a dit qu'il fallait qu'il monte là-haut pour le rencontrer, et alors... Il y a un ouragan et Dieu n'était pas dans l'ouragan. Il y a un tremblement de terre et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et il y a, je ne sais plus quoi encore, et Dieu n'est pas là-dedans. Et puis, il y a, la traduction française dit le bruit d'une brise légère. Le texte hébreu dit le bruit d'un fin silence. C'est ça, le bruit d'un fin silence. Peut-être le son d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr qu'en hébreu on distingue le son du bruit. Mais je ne sais pas, c'est compétent. Dernier lieu, pour moi, de renouvellement du son, c'est auprès des plus fragiles. Là où la musique rencontre la souffrance. Là où la musicalité, pas simplement de la voix d'ailleurs, mais aussi de la musique elle-même, vient... J'allais dire, quand la musique est capable d'aller... soigner l'âme qui souffre en profondeur, quand la musique devient même capable d'aller soigner la vie des personnes. Alors évidemment, moi je pense toujours à Bach, parce que Bach est un homme qui soigne les âmes et les corps et les personnes et les communautés jusqu'à la fin des temps. Mais il n'y a pas que Bach. Hein. Voilà. Et donc, je pense que faire rentrer la musique avec les âmes, en résonance avec les âmes et les corps, et tenter d'expérimenter la musique là, vous voyez, où seule peu de musique parviennent à franchir le seuil. Enfin, vous voyez, je sais pas comment c'est. Dans l'endroit de la souffrance, dans l'endroit des situations limites de la personne humaine, où on rentre et on est un, enfin, où on rentre sans précaution, on a un imposteur qui ne fait qu'augmenter la souffrance, où on enlève ses sandales et on n'ose pas rentrer dans l'espace de la souffrance d'autrui, tout simplement par respect, par sentiment légitime d'impuissance. Voilà. Et on voit bien que quand on franchit ce seuil par la présence, donc on est là, voilà, c'est parce qu'on prend ce risque. Et c'est parce que dans ces cas-là, quand on fait ça, c'est qu'on mise sur le fait qu'on puisse être plus porteur d'espérance que de perturbations supplémentaires, pour faire court. Je dirais, vous entrez dans la chambre d'un agonisant, ou par inconscience grave, ou parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à croire que le positif de ce que vous allez vivre va être plus important que le mal que vous pourriez infliger à l'autre par votre simple présence. D'accord ? Un truc comme ça. Alors on dit oui, mais c'est des fois par obligation. Oui, mais après, l'obligation, elle peut prendre deux teintes. Ou tu y vas par obligation et comme une brute, ou tu y vas par obligation et comme un impuissant. C'est pas pareil du tout. Donc l'obligation n'est pas une excuse. Ça change pas. C'est pas ça qui change la manière de faire. Et donc c'est très étonnant que, comme de marcher sur la pointe des pieds, c'est une métaphore. Ben, y a quelque chose comme ça. Je trouve que la frotter la musique aux situations extrêmes de l'humain et voir où est-ce qu'elle résiste. Bien sûr, vous en doutez bien, je n'ai pas été dans les camps, mais les quelques témoignages qu'on a de la musique dans les camps, à quelque chose de cette nature-là. Aussi bien de ceux qui en ont bénéficié que des fois de ceux qui l'ont joué. La musique n'était pas la même. Elle n'est pas la même. D'ailleurs, c'est très simple, hein, je le vois bien. Quand on est prêtre, la manière dont les gens choisissent, enfin quand les gens ont la chance de pouvoir faire les choses avec attention, et bien la manière dont on choisit les musiques des funérailles n'est pas la même de la manière dont on choisit la musique des mariages. Quand on le fait avec attention, c'est très étonnant de voir. Alors vous avez des gens, ils ne pensent qu'à leurs souvenirs, puis vous avez des gens qui sont vraiment dans la recherche de l'adéquation de la musique à ce qu'on est en train de célébrer. Et évidemment, c'est beaucoup plus délicat dans le cas de funérailles, surtout quand c'est des funérailles voilà, qui portent une dimension de scandale et de souffrance grande. Et je suis très étonné là, de voir à ce moment-là, oui, on voit bien, on tend vers ça, vers une musique qui soit capable d'être consolante, on va dire. Consolante, voilà. Musique de consolation, au sens très profond du terme. Bien, je pense qu'il y a un travail à faire du côté de la musique de consolation. Et ce n'est pas que du Bach, hein. Ça peut être, la musique populaire fait partie de la musique de consolation. Et je pense que là, il y a un champ. Je connais, voilà, ce que je connais un tout petit peu de la chanson française, c'est très frappant de voir que la musique de Piaf, et en grande partie celle de Brel, mais pas tout, est très souvent une musique c'est une musique consolante. Pas les thèmes, toujours, hein, mais chantée par eux, ça a quelque chose voilà, d'une capacité à ne pas vaciller dans l'abord de la souffrance. Ça existe dans toutes les traditions religieuses, la musique du deuil. Mais c'est souvent un peu sentimental au vacarme, hein, pour faire court. Enfin, dans les. Ou alors c'est l'inverse. Me vient à l'esprit, il y a un film qui s'appelle Et où est-ce qu'on va maintenant ? De, je sais plus son prénom, Labaki. Vous voyez qui c'est, cette jeune cinéaste, enfin, tout à fait jeune d'ailleurs. Mais... Et au début, le film commence par une danse, que je crois l'a inventée d'ailleurs, une danse chorégraphie de funérailles, avec de la musique. Et c'est très étonnant, comment est-ce que là, c'est un lieu de renouvellement. Enfin, vous voyez, ça vient éprouver la validité de certaines choses. C'est comme ça. À vous les questions. Évidemment, s'il y a des musiciens, interprètes ou auteurs dans la salle, allez-y.
Bonsoir. Ni musicien, ni auteur, ni compositeur, juste des questions par rapport à la vibration, la fréquence de la musique. Vous avez parlé de musique de soins. On parle de fréquence de vie. J'ai entendu parler, alors je suis trop jeune pour l'avoir vu de mes yeux ou l'avoir prouvé, mais que la fréquence de la musique a été changée pendant la Seconde Guerre mondiale. rapport aux notes. Vous pensez quoi de ça et qu'est-ce qu'il en est sur le corps humain?
Alors, je ne suis pas compétent sur le fait de savoir si à la seconde, première ou seconde guerre mondiale, on a changé. Ce que je sais, par contre, c'est que dans toutes les traditions, le chant sacré et le chant populaire sont sur le même registre musical et avec le même type de tessiture. Et que la plupart du temps, la voix sert de clé de voûte de l'ensemble du travail musical. Et qu'il est évident qu'une partie de la musique classique s'est progressivement écartée de ce registre-là, et que la manière de l'interpréter aussi. Moi, je suis très frappé quand on regarde un clip de certains musiciens, chanteurs ou chanteuses contemporains, parce que pour le coup, là, on est dans la déstructuration complète, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de corporéité, mais il y a une agitation corporelle maximum, il n'y a plus d'affectivité, mais il y a une hyperhystérisation sexuelle des corps, il n'y a plus de voix, mais il y a des espèces d'effets corporello-sonores qui d'ailleurs touchent des registres affectifs, on ne sait plus comment on s'appelle. Enfin, c'est très bizarre, ça. Et je me dis, c'est comme une espèce de cri de désespoir pour moi. Un clip comme ça, tu regardes 10 minutes, pour moi, c'est le Titanic qui a déjà de l'eau jusque-là, qui dit « help », même si ça se vend très bien et que personne ne voit rien de tout ça. Sans parler des espèces d'effets visuels qui fait que tu ne sais pas très bien si tu es au commencement du monde ou à la fin du monde, en tout cas, tu es dans l'apocalypse d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et donc, tout ça par voie négative fait comprendre qu'effectivement, il y a sans doute quelque chose dans la période contemporaine. Alors, il faut qu'il y ait eu... C'était intéressant, toutes ces explorations musicales, y compris cette espèce de pantomime désarticulée, qui est intéressante aussi, parce qu'elle signifie quelque chose de notre monde. Mais sans doute qu'à un moment, on le sait maintenant dans le chant grégorien, par exemple, pour connaître un peu des choses que je connais un peu mieux, l'école de Selem, par exemple, est partie dans une voie placée, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pas possible. Les Corses sont plus proches, sans doute, de la manière de chanter le grégorien tel qu'on chantait au Moyen-Âge, que l'est une musique très, très placée, ou même une manière de chanter qui est plutôt celle du 17e ou du 18e. Et donc, oui, il y a sûrement quelque chose. Et les effets vibratoires ne sont pas les mêmes, c'est vrai, selon l'endroit où on est. Alors, ce n'est pas simplement lié à la partition, c'est lié aussi à la manière dont on l'interprète. La même note, on peut la faire vibrer avec un violon de mille manières. J'ai une amie là, qui a fait une jeune cinéaste d'Avignon qui a fait un très beau... qui a filmé une masterclass de Gauthier Capuçon à la Fondation Vuitton. Et Gauthier Capuçon, que je n'avais qu'un peu entendu, là, on voit comment est-ce que... Enfin, la palette que peut prendre la même note, quoi. Une élève, il l'a fait travailler, elle part d'une note qui est juste, mais qui n'a pas d'âme, et il parvient à lui faire densifier, c'est stupéfiant, quoi. La même note, mais qui a plus la même... qui a de la chair, et qui a une âme, et qui, du coup... voilà. Et donc, c'est pour dire, oui, sans doute, en tout cas que globalement, on est passé aux effets affectifs de la vibration au lieu d'être dans le mystère intérieur vers lequel ils nous qu'ils atteignent en nous et vers lequel ils nous connectent. Voilà. Alors, par rapport à l'avenir, sans doute que... Alors, il y a la science qui vient confirmer, mais comme toujours, la science, elle ne fait pas l'art, elle vient confirmer. Donc évidemment, la science, elle nous montre qu'il y a des fréquences vibratoires aussi bien dans les couleurs, dans les sons, dans les vivants. Enfin voilà, tout a des... Et puis il y a plusieurs fréquences en plus dans le même vivant. Est-ce qu'il y a une fréquence vibratoire fondamentale au monde des vivants ou des animaux? Est-ce qu'il y a une fréquence vibratoire du monde des plantes? Est-ce qu'il y a une fréquence vibratoire du monde physique? Voilà. Tout ça, c'est des grandes questions. Mais c'est ce que l'art, de toute façon, on a l'intuition de tout ça. Il n'est pas capable de le mathématiser, mais il en a l'intuition et il te dira, mais bien sûr, c'est une évidence, on travaille là-dessus depuis la nuit des temps. Et donc, retravailler là-dessus, non pas de manière ésotérique, mais à l'occasion du travail sur du son, sur de la parole. Moi, je pense qu'il faut le faire. Je pense au théâtre, par exemple. Je suis très frappé à Avignon qu'il y a de plus en plus de metteurs en scène qui travaillent là-dessus. La parole n'est pas portée de la même manière selon l'endroit où tu joues, selon le théâtre où tu joues, selon le spectateur. Et tous les jours, la voix ne sort pas pareil. Donc, la fréquence vibratoire qui s'établit et qui va permettre de passer des choses entre le spectateur et les différents comédiens entre eux, voilà, c'est une alchimie très spéciale. Et j'y dirais, plus c'est complexe et plus ça ne réussit que ponctuellement et de manière éphémère. Il n'y a pas... Voilà. Le chef-d'œuvre n'est pas au rendez-vous de manière processorale. Elle est... Mais Aristote travaille déjà là-dessus dans la politique, hein, sur le fait qu'il y a des mélodies, il y a des tons musicaux qui engendrent la mélodie, la tristesse, la joie, le courage. Enfin, il a beaucoup travaillé, et c'est marrant, Aristote, moins 5 siècles avant Jésus-Christ, travaillait déjà sur le fait qu'effectivement, la composition d'un ton musical est une composition qui comporte une symbolique affective, voilà, avec un profil dominant, ce qui est très juste, hein, quand on chante les différents tons. Et il disait ça a une fonction essentielle dans l'éducation. Et on pourrait ajouter dans l'auto-éducation. Et là-dessus, je trouve qu'on rate une porte. Enfin, la musique n'est pas entrée à l'école, quoi. C'est fou. La proportion entre la dose de musique que ça va les jeunes et la quantité, elle, dans l'école, elle n'est quasiment pas un objet, ni d'analyse, ni de pratique. Ni, bon. Donc, il y a un truc, enfin bon, ça fait pas des nombreux trucs qui ne vont pas du tout, quoi. Je ne dis pas qu'il faut faire la pédagogie en chantant, mais c'est énorme l'impact auditif. Vous travaillez la voix des profs ?
Oui. Oui, dans la continuité de cette question, c'était le diapason qui a été calé sous Verdi à 432 Hz et qui a été remodifié par Goebbels, donc un nazi à la dernière guerre, pour confirmer ce que disait monsieur. Et la question que...
Il est passé à combien ?
Il est passé à 440 Hz. De 432, il est passé à 440 Hz, avec l'approbation de l'ensemble du monde musical à ce moment-là. Ce qui est assez étonnant, parce que à ce niveau-là, tout le monde était d'accord, dans tous les camps. Et du coup, la question qui me vient à l'esprit dans cette continuité, c'est quel était l'intérêt et faut-il uniformiser effectivement le diapason, donc remodifier le diapason, pardon, et réuniformiser la musique pour arriver à une espèce de musique souple ou de musique lessive comme on en a aujourd'hui et ne pas rester comme on était avant avec des diapasons qui étaient différents en fonction des époques.
Moi, j'aurais tendance à vous dire c'est le corps, et le corps, c'est analogique. Et donc, j'ai rien contre un instrument qui soit un moyen de repère. Par contre, quand c'est un moyen de mesure, ça vient à la fin du monde. C'est-à-dire que, enfin, vous savez bien, c'est l'histoire du violon de tzigane. Est-ce qu'il joue faux ou est-ce qu'il joue tzigane ? C'est-à-dire qu'un tzigane joue faux, ça ne veut rien dire. Tout simplement, il joue des choses que jamais je... Enfin, d'ailleurs, la musique classique elle-même, enfin, les grands musiciens n'ont pas arrêté de jouer avec ces registres-là. Mais on sent bien, en tout cas, que... Il y a quelque chose du rapport du son et de la note au corps qui ne peut pas être soumise au diapason. Qu'ensuite, certaines personnes aient la capacité de saisir les vibrations en soi, hein, l'oreille absolue, n'est pas nécessairement une oreille de bon goût. C'est une oreille absolue, ça, c'est quelqu'un qui a une capacité de saisir le registre vibratoire en lui-même. Alors ensuite, quel usage il en fait ? Et c'est un peu comme la danse, hein. Moi je compare ça à la danse, tout le monde sait que la danse classique a été j'étais brutal, je dirais une forme de pantomime légitime, mais et en tout cas pour les corps masculins mais même les corps féminins, une forme de torture et de pratique torsionnaire qui n'a pas grand chose à voir avec le respect de la corporité, hein. C'est pas inintéressant comme situation limite, mais c'est comme le pauvre petit jeune là qui s'est explosé à vouloir sauter à 12 mètres. Que, comme disait Audiard, les poissons volants existent, mais ce n'est pas la loi du genre. Tu n'es pas fait pour sauter à 12 mètres. Enfin, c'est dangereux, quoi. Est-ce que l'art est d'abord dangereux ? Non ? Voilà. Enfin, bref. Donc on peut... Mais pour moi, ça se tient ensemble, hein, parce que je ne dis pas que Louis XIV, c'est Goebbels, mais je dis que la musique, la danse classique, qui a voulu tout travailler dans l'élévation et la disparition de la pesanteur, moi, je conteste totalement le fait que la danse soit la tentative de vaincre la pesanteur. C'est une forme de danse. À mon avis, elle est un peu particulière, selon psychique. Elle est légitime, mais elle est très particulière. Voilà. C'est comme la musique de décaféné, que j'ai rien contre. Mais je voudrais pas. Moi, ça me gêne quand on parle de danse classique. Donc, je voudrais qu'on parle de la danse de l'Europe occidentale, de telle époque, qui avait tel type d'obsession, tel type de recherche, et qui est un petit moment dans l'histoire humaine de la danse. Alors, ça vient doucement, hein, mais on a du mal quand même, là. On n'est pas encore tout à fait... On l'a fait du côté de la musique, hein. Voilà. Et donc, là-dessus, je dirais que ça... il ne faut pas prendre un standard pour un autre, mais on devrait là-dessus... Voilà. Ensuite, il faudrait être un technicien. Je ne le suis pas du tout. Pour savoir quelle est la différence de travail qu'on accomplit avec l'un et l'autre de ces diapasons et s'il y en a un qui engendre spontanément tel type plutôt d'orientation ou plutôt tel autre. C'est comme les instruments baroques ou non baroques, c'est un peu le même genre de question.
Ouais, j'ai une question un peu plus personnelle. Quelle relation vous avez, vous, avec la musique ?
Mais d'abord, quand j'ai l'occasion d'en entendre de la vraie en direct, ça m'émeut très profondément parce que j'en ai peu l'occasion. Vous voyez, tout à l'heure, là, c'était en direct, ce jazz-là. Et donc, c'est vrai que d'abord, pour moi, c'est quelque chose que je mesure pour le coup très fortement tout ce qui n'est qu'un rappel lointain, même s'il m'arrête d'écouter des choses que j'aime beaucoup. Et des fois, d'ailleurs, c'est vrai que je le reconnais, l'enregistrement, moi, que j'ai des Vêpres de la Vierge de Monteverdi sont bien meilleurs que celui que j'ai entendu il y a un an et demi et qui n'était pas du tout à la hauteur qualitativement et spirituellement. Voilà. Et que je préfère la trace imparfaite d'un moment artistique et spirituel fort à l'écoute directe d'un moment qui est correct. Mais le problème, c'est que Monteverdi, les Vêpres de Monteverdi, ça ne tolère pas le correct. C'est ou ça se surperforme ou non, ou rien. Enfin, peut-être que je suis un peu sévère. En tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Ensuite, ben, sinon, dans la pratique quotidienne, je n'ai que le chant des psaumes. Alors là, c'est entre le purgatoire et l'enfer. Le paradis n'est pas à l'horizon, parce que je me trompe dans les tons. J'énerve mon voisin, parce que tant qu'on ne me corrige pas, j'essaie de pousser le bouchon un peu plus loin. Je n'ai pas appris à lire les notes, parce que j'ai décidé aussi de ne pas casser les pieds à tout le monde, parce que je pense que quand on commence à être vraiment compétent en musique, d'abord, on souffre plus de tous les gens qui ne la connaissent pas. Et ensuite, on devient un tortionnaire des voisins qui sont nuls. Et donc, j'ai décidé que je préférais être torturé que tortionnaire. Non, sérieux. Voilà. Et ensuite, je sais qu'au ciel, on pourra pratiquer plein de trucs qu'on ne fait pas sur la terre, donc j'attends. Mais je suis très heureux d'écouter. Pour tout vous dire, j'ai une grande... C'est très intéressant de regarder un musicien, de l'écouter, de parler avec lui, de regarder la relation qu'il a à son instrument.
Est-ce que la musique vous apporte une manière est-ce que ça vous aide dans la prière ?
Dans la vie spirituelle ?
Oui.
Non. J'ai été, pour tout vous dire, pour être très honnête avec vous, la musique m'a beaucoup ému aux larmes et de manière extrêmement profonde. Quand je dis de temps en temps je suis très heureux, ça ne m'émeut absolument plus de la même manière. Non.
Parce que je fais référence au dernier concert où j'ai eu vraiment les larmes aux yeux. C'est une Québécoise qui chantait à Saint-Joseph, la vie de Sainte Thérèse.
Comment elle s'appelle ? Oui, je le comprends.
Natacha Saint-Pierre.
Voilà, mais je vous réponds avec honnêteté. C'est tout à fait ponctuel et relativement secondaire dans ma vie. Voilà. Parce que, je ne sais pas... Peut-être parce que je perçois trop en permanence le décalage qu'il y a entre les plus belles musiques et les gémissements des humains. Voilà. Et que mon aspiration à entendre de la musique dans les gémissements et des gémissements qui soient transfigurés par la musique est de plus en plus fort. Donc je vis là-dessus, je suis pas... Vous voyez, il y a quelque chose où la beauté ne m'atteint plus dans la même profondeur parce qu'il y a un moment donné où la profondeur des humains coïncide avec ce qu'il y a de pas beau en eux. Voilà. Donc à cet endroit-là, la beauté peut... Il y a un endroit, elle ne peut plus rien pour vous. À la sortie, quand vous ressortez de la souffrance, quand vous émergez un tout petit peu, là, elle peut quelque chose pour vous. Mais il y a un endroit où elle ne peut plus rien pour vous. Il y a un endroit où le beau ne peut plus rien sur la terre.
Je n'ai pas tout compris, mais...
C'est pas grave. La beauté n'a pas la même extension que la bonté des choses. Il y a un seuil où la bonté largue la beauté. Il y a des choses dans l'ordre de l'être qui ne sont pas belles, et pourtant qui sont. Et il y a des choses qui sont et qui sont bonnes et qui ne sont pas de l'ordre du beau. Voilà. Aujourd'hui, la beauté, aujourd'hui, dans notre condition, la beauté reste limitée. Et donc, il y a des espaces entiers qui sont ceux de la bonté où la beauté n'existe plus, qui sont une grande partie de la vie des humains et de la vie de chacun. Et donc, ce sentiment du fait qu'à un moment donné, la beauté décroche, non pas que la beauté ne puisse pas parler de tout, non pas qu'elle ne puisse pas de tout évoquer, mais dans la vie des personnes, il y a un moment donné où la beauté décroche. Sauf si on veut parler de présence. Alors on peut dire, oui, dans toute présence, il y a une forme de beauté, mais à ce moment-là, la beauté se confond avec la bonté. C'est plus tout à fait de la beauté au sens un peu rigoureux du terme. Alors recueillir la beauté jusqu'aux extrêmes limites du possible, oui, chez les mourants, chez les gens, il y a toujours une part de beauté dans le regard, y compris de ceux qui souffrent, mais la recueillir, c'est autre chose que d'être présent à leur souffrance. Il faut avoir du temps pour recueillir par moment. Quand vous êtes urgentiste, voilà, il y a des moments où le recueillement, c'est pour la phase d'après. Et donc, c'est dans les vies humaines, c'est comme ça. Et donc, c'est pour dire que, voilà, c'est pas facile d'accepter que, oui, la beauté a quelque chose de prophétique, mais la beauté a malgré tout quelque chose qui, à un moment donné, ne peut déboucher que sur le silence. Et donc, c'est vrai que, par contre, le silence, lui, nourrit indéfiniment l'espace de la prière et de la rencontre à autrui. Là, il n'y a pas de limite dans le silence. Donc, si vous voyez, ce n'est pas la beauté qui donne lieu à la laideur, c'est la beauté qui s'efface parce qu'elle n'a plus rien à dire, elle se tait. Alors, si le silence est la beauté, mais je trouve que c'est un peu récupérateur de dire que le silence est la beauté. Le silence, c'est un endroit où la beauté se tait provisoirement parce qu'elle n'a plus rien à dire, là, pour l'instant. C'est peut-être le silence, c'est l'humilité de la beauté devant le fait que la bonté est capable d'aller dans tous les champs de la souffrance. Même capable de pénétrer au cœur du mal, pour moi. La beauté, non.
Et le tandem cinéma-musique, je ne sais pas, quand on écoute à Valkyrie, on voit tout de suite les hélicoptères. Le peuple émigrateur, la seule musique qu'il y avait, c'était le bruissement des ailes des oiseaux. Quoi.
Mais je pense que le cinéma... C'est vrai, il n'y a pas de conjonction entre cinéma et littérature, entre musique et littérature. Vous avez des gens qui écoutent de la musique en même temps qu'ils lisent, hein. Vous avez des gens qui vous disent qu'ils ont écrit tel bouquin en écoutant telle musique. Mais c'est vrai, le cinéma, il n'a pas de bon son nécessairement parce qu'il y a eu du cinéma muet. Mais c'est vrai que c'est très particulier au cinéma. Le cinéma, ce n'est pas le théâtre du tout. Hein. On fera peut-être l'année prochaine. On n'a pas fait le cinéma encore. Non ?
Non.
Je préfère le cinéma ou le théâtre parce que le rapport au son n'est pas du tout le même. Maintenant que je suis à Avignon, je m'en rends mieux compte. Le rapport au son n'est pas du tout le même en théâtre et en cinéma. Et donc, je ne saurais pas vous répondre. Il faudrait y réfléchir de manière un peu plus attentive parce que c'est quand même des arts synthétiques l'un comme l'autre. Dans la musique, il y a quelque chose de plus simple. C'est plus élémentaire, la musique. C'est comme la peinture. Donc, c'est une bonne question. Je n'ai pas assisté, par exemple, encore à ces films où la musique est en direct. Vous savez, où vous avez la bande-son en direct. Ça, j'aimerais beaucoup, parce que c'est ce qui se passait dans le cinéma muet. Par exemple, il y a un film de Dreyer qui s'appelle Jeanne d'Arc, qui est joué par Falconetti, et c'était fait pour que quelqu'un improvise à l'orgue au moment de la projection. Voilà, je n'ai pas eu cette chance-là.
Oui, j'avais encore une question par rapport à l'explication que vous avez eue de la musique. J'aimerais approfondir une notion qui était, de ce que j'ai compris, une musique était acoustique. Donc, ça veut dire sans enceinte, qui venait directement de l'instrument, que ce soit un violon, un saxophone. C'est-à-dire que ça sort de l'instrument et ça vient à l'intérieur. Que penser de la guitare électrique ?
Alors, tout à fait. C'est pour ça que la musique globalement est née. Alors, ça reste de la musique puisque c'est né d'un corps qui rentre qui est en mouvement. Que ça soit par l'électricité ou que ça soit par le choc ou par la percussion ou par le frottement, de toute façon, il y a un mouvement. La seule chose, c'est que les matières originelles de production du son ne sont pas les mêmes, c'est tout. C'est tout. Mais je trouve que l'électricité est une manière de fabriquer des sons qui est très intéressante. Il y a une distorsion sonore, il y a un champ auditif par grâce à l'introduction de l'électroacoustique, qui est tout à fait passionnante, moi, je trouve. Qui a un champ très particulier, mais qu'évidemment, on ne peut pas opposer, mais qui est... D'ailleurs, là encore, je pense qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui combinent l'électroacoustique avec le retour à l'écoute de la nature. En s'apercevant bien que c'est un peu les deux sources, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça, on le sait bien aujourd'hui, hein. Je ne veux pas dire que tout objet peut provoquer un son intéressant, mais là encore, c'est intéressant. On, 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 a, on a quitté les standards, hein, et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que de nouveau qu'il y a une redécouverte des sons. C'est pour ça que ce que je disais, je pense que ça, on est rentré dans cette époque-là, maintenant, il faut remonter en amont, qui est la réécoute des sons originels, et de s'en réimprégner suffisamment, ce qui n'est pas commode, quand la quantité de sons originels que nous percevons par rapport aux sons provenant des choses, des objets artificiels, je sais pas, est de 1 à 1000, enfin, par la voix, les chiens et les chats. C'était la dernière séance.